Chers auditeurs, au début de l'année 1790, l'attente des Français était celle d'une constitution qui devait mettre fin à l'absolutisme royal. L'Église, qui était intimement unie à l'État, ne pouvait échapper aux transformations que connaissait ce dernier. La constitution civile du clergé, adoptée le 12 juillet 1790, allait y pourvoir. Elle allait changer de fond en comble l'organisation de l'Église de France. Les constituants n'étaient pas des incroyants, mais ils agissaient dans la tradition des légistes d'Ancien Régime, des Gallicans, qui s'opposaient au pouvoir temporel de l'Église en respectant son pouvoir doctrinal et qui maintenant, à Versailles, prétendaient simplement calquer la réorganisation ecclésiastique sur celle de la nouvelle administration civile. Même distribution des provinces et des évêchés, calquée sur les départements d'ailleurs, même collèges électoraux pour la désignation des évêques et des curés. Ces légistes pensaient, selon ce qui était dit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que le principe de toute souveraineté résidait essentiellement dans la nation. De ce fait, la désignation des évêques et des curés devait se faire au suffrage des citoyens. Avec la création des départements, les Bayonnais avaient sujet de se plaindre des nouvelles dispositions adoptées sur le plan civil. Le chef-lieu des Basses-Pyrénées était fixé à Pau. Celui du district qui englobait le Labour, à Ustaritz, et celui du district qui comprenait la Basse-Navarre, à Saint-Palais. Et voilà qu'on enlevait à leur ville son titre séculaire d'évêché, car le siège du nouveau diocèse, constitué à partir des anciens évêchés de Bayonne, de Lescar et d'Oloron, se trouvait dans cette dernière ville, à Oloron. Le reproche que les évêques faisaient à cette réforme de l'organisation de l'Église de France, c'est qu'elle se réalisait sans aucun recours aux formes canoniques, c'est-à-dire en dehors de l'autorité de l'Église elle-même. Discussions et controverses gagnèrent rapidement les presbytères, même ceux du Pays basque. On y rencontrait partisans et adversaires de la constitution civile du clergé. Celle-ci se bornait-elle à réformer sur des points de discipline des abus universellement dénoncés ou bien touchait-elle également à la religion elle-même? C'est ce dernier point qui faisait problème. Par ailleurs, comme c'était désormais la nation qui paierait les curés, il ne déplaisait pas à certains de devenir ainsi des fonctionnaires et d'obtenir de ce fait des avantages matériels. Mais beaucoup de prêtres du Pays basque sentaient comme d'instinct qu'il ne fallait accorder aucune valeur à cette constitution parce qu'elle était rédigée en dehors de l'autorité hiérarchique. Des prêtres habitués à la réflexion théologique justifiaient intellectuellement cette position. On peut en trouver l'écho dans une lettre qu'un jeune clerc, neveu de l'abbé Dominique Duhalde, curé d'Irisari, adressa à celui d'Ossès, acquis au mérite de la Constitution. Il écrivait « Depuis Jésus-Christ jusqu'à présent, on a toujours cru comme article de foi que l'Église est indépendante de la puissance civile, qu'elle seule a le droit de faire sa discipline, qu'elle seule est infaillible tant en matière de foi qu'en matière de mœurs et de discipline. Le croyez-vous, vous qui admettez les lois ecclésiastiques faites par le pouvoir temporel sur les débris de la discipline générale de l'Église. Depuis Jésus-Christ jusqu'à présent, on a toujours cru comme article de foi que les évêques et les curés sont d'institutions divines et que, par conséquent, à l'Église seule appartient le droit de le déposer et d'en substituer d'autres à leur place. Le croyez-vous, vous qui prétendez que l'Assemblée nationale a pu déposer légitimement une foule d'évêques et de curés et leur en substituer d'autres? Vous qui, en vertu de décrets constitutionnels, vous croyez relevé du vœu d'obéissance à votre évêque que vous aviez fait solennellement au pied des autels. L'abbé Duhalde reprenait à son compte le point de vue de l'évêque de Bayonne, car Monseigneur de la Villevielle allait l'exposer dans une lettre pastorale qu'il devait publier en novembre 1790, dans laquelle il précisait sa position par rapport à la constitution civile du clergé et où il cherchait également à dissiper les doutes que les idées de liberté d'opinion et de tolérance exposées dans son mandement du 25 mai précédent avaient fait naître dans les esprits. La municipalité de Bayonne trouva que cette lettre allait à l'encontre du nouveau cours des choses et, sur le refus de l'évêque de la désavouer, les conseillers municipaux la dénoncèrent au district, lequel la dénonça à son tour à l'Assemblée nationale. Devant l'agitation et la résistance qui se répandaient dans le clergé, l'Assemblée nationale pensa porter un remède efficace en exigeant des évêques et des prêtres un serment, ainsi formulé : « Je jure de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse ou de la paroisse qui m'est confié d'être fidèle à la nation, à la loi, au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. » Il s'agissait, bien entendu, de la constitution civile de la nation, mais également la constitution civile du clergé. Le refus du serment équivalait à la démission et entraînait la perte du traitement ou de la pension. Si l'évêque ou le curé continuait ses fonctions, il était considéré comme perturbateur de l'ordre public. L'embarras des prêtres était grand. Ils ne pouvaient pas adhérer à la nouvelle constitution de l'État sans accepter celle qui allait désormais régir l'Église de France. C'était pour eux une situation nouvelle, écrit un historien. Il leur fallait choisir et trancher entre deux fidélités, à l'Église ou à la nation. C'était un choix douloureux, car le refus du serment entraînait la révocation et l'abandon des fidèles. C'était un choix impossible, car rares étaient les prêtres qui discernaient exactement tout ce qui était en jeu, d'autant plus que le pape se taisait. À Bayonne, le mandement épiscopal de novembre 1790, publié quelques semaines avant le décret du serment, n'était pas très éclairant pour les prêtres. Selon la loi, il revenait aux officiers municipaux de recueillir dans les paroisses le serment constitutionnel des curés et des vicaires qui étaient désormais des fonctionnaires publics, et celui des prêtres qui y résidaient et qui voulaient le prêtrer. Plusieurs de ces municipalités, qui adhéraient avec ferveur au nouveau cours des choses, se prêtèrent sans réticence à la démarche qui leur était demandée. Beaucoup se trouvaient à la traîne et leur zèle avait besoin d'être encouragé ou même réanimé. Les administrateurs des deux districts s'en chargèrent et veillèrent à l'application de la loi. Nous verrons la prochaine fois les résultats obtenus et ce que furent les débuts de l'Église constitutionnelle au Pays basque.